France Inter. Le 7-9. Intervenez.
01 45 24 7000, interactive, vos questions pour Delphine Horviller et Rachid Benzine qui publie Au seuil des mille et une façons d'être juif ou musulman. Un premier appel, Bernard est avec nous. Bonjour Bernard.
Bonjour, bonjour.
Merci d'écouter France Inter et nos invités sont à votre écoute.
Merci du cadeau que vous me faites à mon réveil. Pourquoi ? Parce que j'ai enseigné l'histoire de la Babylonie ancienne. Et j'ai suivi un petit peu les traces entre Sumer et Yahvé. Et Yahvé qu'on ne peut pas emmener en captivité, puisqu'on ne le représente pas, on ne le nomme pas. Et jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, les Assyriens emmenaient les peuples, les dieux en captivité qui rejoignaient Marduk. Alors la question, pourquoi ne peut-on pas enseigner l'histoire de la religion, ou des religions, pardon, excusez-moi, je pense à mes amis africains également, mais l'histoire des religions, comme on enseigne une autre matière, l'histoire.
Qui veut répondre ? Rachid Benzine ?
Moi, je suis assez pour, c'est-à-dire que l'histoire permet de mettre une distance, de ne pas ramener l'autre à soi. Et l'histoire, aujourd'hui, pour moi, est le meilleur antidote pour les crispations identitaires et la question du fondamentalisme. Simplement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand vous abordez la question de l'histoire des religions, vous touchez à du religieux qui est devenu aujourd'hui identitaire et très affectif. Et parfois, c'est explosif. D'où la difficulté pour un certain nombre de professeurs de pouvoir toucher cela, parce que nous sommes aussi devenus des analphabètes d'un point de vue religieux. C'est-à-dire que nous ne savons plus comment, prendre cette question du religieux.
Comment expliquez-vous ce repli identitaire guidé par le religieux, Rachid Benzine ?
C'est-à-dire que les sociologues l'ont suffisamment montré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une déconnexion entre la religion et la culture. C'est-à-dire que la religion, il y a à peu près trois pôles. Il y a le pôle éthique, il y a un pôle cognitif, puis un pôle identitaire, c'est-à-dire qui passe souvent par le vestimentaire et l'alimentaire. Et aujourd'hui, le religieux répond à des besoins, des sources d'espérance, un refuge identitaire, un tremplin politique. Et en même temps, aujourd'hui, notamment en France, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus ces politiques publiques dans un certain nombre de quartiers, le religieux devient le médium à partir duquel, les gens s'expriment. C'est-à-dire que le religieux vient répondre à un vide social et politique.
Delphine Horviller.
Et puis, il y a une obsession dans tous les discours, et particulièrement dans les discours religieux, une obsession de la pureté. C'est-à-dire toujours la question, c'est comment on fait pour raconter notre histoire comme si on n'avait pas été contaminé par les autres. Et en ça, c'est intéressant, la question de l'auditeur, parce qu'on a toujours du mal à se raconter notre histoire religieuse comme venant de quelque part, comme ayant été influencé par d'autres, comme ayant traversé d'autres mondes qui nous ont nourris. On aime bien, ou on préfère souvent se raconter notre histoire comme si on pouvait faire du passé table rase, et comme si finalement, au début, on avait été influencé par personne. Et on voit bien dans de nombreux discours l'obsession de la pureté. Il faut en toutes circonstances dénoncer l'impureté de l'autre, l'impureté de la femme, l'impureté d'autres croyances ou d'autres pratiques.
Frédéric Mettezeau.
Aujourd'hui, c'est le 25 décembre. Les chrétiens fêtent la naissance d'un petit bébé juif. Donc, on voit assez facilement comment le judaïsme a nourri le christianisme. Est-ce que le christianisme a nourri vos religions respectives ? Est-ce que le christianisme a nourri le judaïsme et l'islam ?
Sans aucun doute, en fait, on s'est tous nourris les uns des autres. Alors, il y a des exemples très concrets. Par exemple, dans la liturgie, dans les prières du judaïsme, certaines ont été écrites en réaction à des événements ou parce qu'on est les enfants de la rencontre avec le monde chrétien. Un exemple typique de ça, dans la liturgie juive du début d'année, il y a tout un martyrologe, c'est-à-dire toute une liturgie qui a été influencée par la rencontre avec le monde chrétien, parfois par les croisades et par la terreur des croisades et l'influence qu'elle a eue sur le monde juif. Donc on voit que de mille manières, on a réagi consciemment ou inconsciemment contre l'autre, avec l'autre, on s'est nourri de lui, donc c'est indéniable.
La Bible et le Coran sont-ils totalement étrangers l'un à l'autre ?
Loin de là, c'est-à-dire que la figure la plus citée dans le Coran est Moïse. C'est-à-dire que le Coran rencontre à la fois, un certain type de judaïsme, un certain type de christianisme, et l'islam, dans sa construction, a rencontré le judaïsme, le christianisme et le zoroastrisme. C'est-à-dire que lorsque vous prenez simplement ce que nous appelons la tradition prophétique qui a été établie au 9e siècle, elle est le fruit d'une rencontre avec un certain type de judaïsme. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît notamment le judaïsme rabbinique voit très bien que dans la tradition prophétique, il y a beaucoup d'éléments éléments qui sont censés rapporter la parole du prophète ou un certain type de comportement qui nous viennent du judaïsme. Parce que toutes les sociétés, je dirais toutes les religions sont des religions syncrétiques. Et pour revenir à ce que disait Delphine, c'est parce qu'on n'arrive pas à accepter ce syncrétisme qu'on a envie d'avoir cette idée de la pureté. Mais cette idée de la pureté dans la religion, on la trouve aussi dans certaines expressions du populisme politique aujourd'hui. Lorsque vous avez, je dirais, le Front National aujourd'hui qui dit « on est chez nous », ça veut dire que les autres ne sont pas considérés comme étant chez eux. Et donc cette frontière du « nous » et du « eux », c'est ce que crée le fondamentalisme et les gens de l'extrême.
Oui, j'ajouterais que cette idée syncrétique, elle est importante, à condition aussi de reconnaître que, effectivement, on ne dit pas tous la même chose. Toutes les religions ne s'expriment pas de la même manière, n'utilisent pas le même langage et elles ne peuvent pas être réduites à une seule et même chose. Bien souvent, d'ailleurs, dans le dialogue interreligieux, entre guillemets, c'est comme ça qu'on l'appelle, le terme consacré, eh bien, c'est troublant de voir qu'on utilise parfois les mêmes mots, mais pas pour dire la même chose. C'est flagrant, parfois, quand un chrétien utilise le mot foi, un juif face à lui ou un musulman est pas tellement sûr de comprendre à quoi il fait référence. Même chose quand un musulman utilise le mot soumission, on se demande tous exactement ce qu'il veut dire par là. Donc il faut bien accepter que on utilise souvent les mêmes mots, pas de la même manière, et qu'on a sans doute été influencés les uns par les autres.
Alors on parle des mots qui reviennent très souvent dans l'actualité. Quelle est la différence selon vous entre islam et islamisme, Rachid Benzine?
L'islam, c'est d'abord une religion, une civilisation, et l'islamisme, c'est l'utilisation politique de la référence religieuse pour gouverner ou pour imposer un certain mode de vie aujourd'hui. Donc ça, c'est la déclinaison politique, je dirais, d'une religion.
Delphine Horviller, sur ce point?
Oui, je pense que c'est essentiel de dire que les dérives de nos religions font partie de nos religions. C'est-à-dire que moi, je trouve ça terrible aujourd'hui, le discours qu'on entend malheureusement encore chez certains, de s'imaginer que les dérives ou les maladies ou les pathologies de nos traditions religieuses ne seraient pas les nôtres. Moi, je pense que, voilà, nier aujourd'hui que l'islamisme a quelque chose à voir avec l'islam n'a aucun sens, de la même manière que des fondamentalistes de toute religion ont quelque chose à voir avec la religion, on dit très clairement.
Alors, que répondez-vous à ceux qui dénoncent, je cite, le communautarisme islamique et son prosélytisme chez les jeunes? C'est un fantasme ou c'est une réalité? Rachid Benzine.
Je pense d'abord il y a une réalité qui est là, qui est liée à un certain type de communautarisme. Mais c'est pas tellement un communautarisme religieux, c'est parce que au départ, il y a alors des territoires qui sont pas perdus, mais abandonnés par la République. Et donc je pense qu'à un moment, les gens se regroupent en communauté parce que ça permet de créer du lien. C'est-à-dire que cette expression religieuse, elle répond à un défaut de quelque chose. Mais vous savez, moi qui habite à Trappes, lorsque je me balade dans les quartiers à Trappes, la plupart ont envie d'habiter ailleurs, dans des pavillons, pour que leurs enfants soient dans les meilleures écoles. Et donc c'est plutôt un communautarisme subi plutôt qu'un communautarisme voulu.
Frédéric Mettezo.
En France, il y a depuis fort longtemps un clergé catholique qui donc a des relations établi avec l'État. Ça a été la même chose pour la religion juive. Alors, c'est pas un clergé en tant que tel, mais c'est des organisations. Ça a commencé sous Napoléon, ce dialogue entre l'État et la religion juive. Pour l'islam, c'est beaucoup plus récent. Nicolas Sarkozy, en son temps, avait, baptisé, sans mauvais jeu de mots, le CFCM, le Conseil français du culte musulman. Mais est-ce que l'État français a raison de chercher ce type d'organisation avec l'islam? Est-ce qu'on peut transposer ce type de structure qui existe chez les catholiques et chez les juifs, chez les musulmans?
Que l'État demande à avoir un interlocuteur pour gérer un certain nombre, je dirais, d'éléments pratiques, ça me semble normal. La manière dont il les désigne, ça, à mon avis, ça relève pas du tout de la normalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'intérieur du CFCM, et on voit bien que cela ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est plutôt les CRCM, plutôt en région, gens qui sont beaucoup plus proches, je dirais, des besoins des musulmans de France. Mais on voit que la manière dont il désigne ces gens-là, qui relèvent souvent du politique. Et je pense que il ne faut pas enfermer, les Français de confession musulmane dans des institutions. Et si ça fonctionne pas, c'est peut-être que les Français de confession musulmane sont suffisamment sécularisés et qu'il n'est pas besoin d'avoir des représentants religieux.
Recevant des responsables religieux il y a quelques jours, Emmanuel Macron a dénoncé en France une radicalisation de la laïcité. Il a souligné, je cite, que la République est laïque et non la société. Votre réaction, Delphine Horviller?
Oui, la République est laïque, la société ne l'est pas, mais Moi, je suis pas sûre que ça serve beaucoup de dire qu'il y a une radicalisation aujourd'hui de la laïcité. Il y a aujourd'hui un combat pour trouver les définitions de la laïcité, les définitions des uns et des autres, aujourd'hui dans un dialogue. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question que comment on gère le dissensus dans notre société. On a l'impression qu'il y a une polarisation des discours qui fait qu'on parle de la radicalisation des uns versus la radicalisation des autres, comme si on n'avait plus rien à se dire, comme si on n'était pas capable de gérer aujourd'hui dans notre société le désaccord. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Les gens se haïssent, ne se parlent plus, ont l'impression qu'au sein même de leur propre camp politique ou de leur famille, ils n'ont plus rien à se dire. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir aujourd'hui, plutôt que de se qualifier les uns les autres de radicaux, essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut rétablir des ponts et des dialogues dans le débat.
Rachid Benzine.
Ça me fait penser à un texte que j'ai lu qui s'appelle « Radicalement vôtre ». Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des formes de radicalité de partout, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses. Simplement, je pense qu'il faut faire quand même très très attention aux mots que nous utilisons et à ce concept de laïcité, parce qu'il y a des imaginaires sur cette question de laïcité. Et j'ai l'impression qu'on demande beaucoup de choses à la laïcité, c'est-à-dire qu'on lui demande de prendre en charge des problèmes qui ne relèvent pas finalement de la laïcité, et que le mot laïcité est un mot cache-misère qui cache une absence, je dirais, de politique publique aujourd'hui. Et donc on voit bien que aujourd'hui sur cette question de la laïcité, il y a des définitions qui sont véritablement assez grandes, et que la laïcité, souvent Delphine elle le dit, c'est une bénédiction et qu'il faut savoir aujourd'hui la préserver et ne pas l'utiliser de manière idéologique de part et d'autre.
Frédéric Mettezeau.
Avec même un paradoxe, cette radicalisation générale intervient alors même qu'il n'y a jamais eu une proportion aussi forte de non-croyants ou en tout cas de non-pratiquants en France.
Delphine Horviller.
Oui, et qu'on a tendance effectivement à polariser le débat comme s'il y avait d'un côté les croyants et de l'autre les non-croyants, et que nécessairement les croyants entre eux partageaient beaucoup plus que ce qu'ils ne partagent avec un non-croyant. Et tout ça n'a pas de sens. En réalité, moi j'ai l'habitude de dire souvent qu'on peut répartir les gens en deux catégories, pas ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, mais plutôt ceux qui dans leur vie tolèrent le doute et ceux qui dans leur vie ne tolèrent pas le doute. Et ça me semble être là une marque, une démarcation beaucoup plus pertinente pour le débat d'aujourd'hui. Est-ce que dans votre vie, il y a de la place pour l'autre? Est-ce qu'il y a de la place pour le doute, pour le questionnement et parfois même pour le vide?
La nuance, comme on disait tout à l'heure.
La complexité, pour moi, c'est ça la bénédiction de la laïcité.
Un appel de Christian à Bayonne. Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
Nos invités vous écoutent.
Je peux parler là?
Allez-y, allez-y.
Oui, très bien. Bon, rapidement, je suis athée, militant laïque et franc-maçon. Dans le cadre des différentes rencontres qu'on peut avoir avec les religions, nous avons des relations extrêmement fortes et très très riches avec les religions juives, avec les protestants. C'est un peu compliqué avec les catholiques, enfin certains en tout cas, mais extrêmement difficile avec les représentants de l'islam. Mmh. Et je voudrais juste savoir pourquoi.
Quel est votre... Vous avez vous-même une explication?
Moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a une espèce de fermeture, de dogmatisme très très fort.
Rachid Benzine, Delphine Horviller, justement, votre livre, c'est pas justement un combat contre le dogmatisme?
Absolument. En tout cas, c'est un livre sur le questionnement, sur le doute, sur la nécessité de remettre en cause toutes nos évidences et de bien montrer que, je le redis, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de Dieu en dehors de l'histoire, et que c'est très important de comprendre cette idée de l'histoire.
Delphine Horviller.
Et c'est important que cette histoire, elle entre dans les lieux de culte. Je crois que c'est aujourd'hui ce qui est manquant. La question, c'est de savoir comment, effectivement, à l'avenir, des discours dans des mosquées vont s'emparer de ce que dit, de ce qu'enseigne Rachid et ses pères, des islamologues aujourd'hui. Comment ça va se traduire à l'intérieur des institutions religieuses? C'est loin d'être une évidence, mais c'est pas vrai seulement pour l'islam, c'est vrai aussi pour les autres traditions. Comment on s'empare de l'histoire et on lui fait de la place dans le culte, dans le rite, dans le rapport au texte ou à la prière dont on parle tout à l'heure.
Delphine Horviller, Rachid Benzine, je rappelle le titre de ce dialogue sur près de 250 pages, des mille et une façons d'être juif ou musulman. C'est paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Inter ce matin.